Bonsoir. À la une des informés, un séminaire ministériel et ça repart. Emmanuel Macron tente de tourner la page du lot et de remettre la machine en marche. Nouvel épisode du feuilleton démarré il y a 8 jours. La conquête du perchoir à l'Assemblée nationale, promis à Richard Ferrand, un pilier de la Macronie. Mais face à lui, eh bien, il y a 3 femmes députées candidates. Le prochain objectif, la loi Pacte. Plutôt que la réforme de la Constitution, le gouvernement veut renouer avec l'esprit de la réforme. Faut-il en finir avec le numerus clausus et augmenter le nombre de médecins? Le gouvernement y réfléchit. Révélation France Info. Nous refermerons les informés avec une bataille navale sur fond de Brexit. Français et Britanniques s'affrontent sur la pêche à la coquille Saint-Jacques. Mais où est donc passée notre bonne vieille entente cordiale? Voilà, on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France 2 et présentatrice de l'Instant T sur France Info. Avec nous également, bonsoir Romain De Salle. Bonsoir. Et bienvenue, fondateur de la newsletter d'actualité TTSO, Time to Sign Off. Elle sort tous les soirs dans nos boîtes mail à 18h58, je l'ai repéré. Bonsoir à vous et bienvenue Eric Métou.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Avec nous également Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique, professeur associé à la Sorbonne, auteur du coup de com' permanent aux éditions du CERF. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron s'est laissé filmer en levée de rideau du Conseil des ministres. 8 jours se sont écoulés depuis la démission surprise de Nicolas Hulot un beau matin sur France Inter. 8 jours de turbulence entre prélèvement à la source et Gaulois réfractaires. Il faut tenir, a dit le président à ses ministres.
Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat ou sous la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat.
Audrey Goutard, le président qui se laisse filmer en télé, en début de Conseil des ministres, c'est un peu inédit quand même.
Oui, c'est tout à fait inédit. Alors c'est une bonne manière effectivement de se faire entendre, parce que là, du coup, vous avez les médias qui se précipitent, les reprises assurées, et puis une façon de montrer qui est le capitaine.
Oui, Arnaud Benedetti, c'est de la com,
vous qui êtes spécialiste. C'est clairement de la communication. Il s'agit de montrer qu'on reprend la maîtrise de sa communication après après des séquences un peu difficiles où on avait le sentiment que l'Élysée, que la majorité dans son ensemble perdait un peu la maîtrise de leur communication. Donc il s'agit de restaurer l'image aussi, de montrer que le chef est à la barre, que l'on est remobilisé. Et puis, Macron a toujours eu cette idée de renouveler les formats de communication. Et c'est vrai que c'est une première. Parce que je ne crois pas de mémoire qu'un président de la République ait permis jusqu'à présent que ces images puissent être prises au moment du démarrage d'un Conseil des ministres. Donc c'est une première. Donc il s'agit d'innover.
Eric Métou, est-ce que vous pensez que ça peut imprimer les esprits, ce type de prestation?
Comment dire? Non.
La réponse dans le silence, c'est ça. Ouais.
Non. C'est quand même très anecdotique cette manière de communiquer. Je pense que autant l'interview Bourdin Mediapart, ça restera peut-être dans les esprits. Autant là, c'est l'innovation pour l'innovation.
Voilà, c'est ça.
Mais le message est clair. Oui, c'est je suis de retour au le maître des horloges est de retour dans son clocher.
Ouais. Romain De Salle, parmi les citations du président, il dit notamment rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat. C'est ce qu'il rappelle. Cela signifie peut-être que les résultats se font attendre.
Mais c'est surtout sur la forme que c'est marrant, parce que je voudrais y revenir, c'est quand même très scripté, on a l'impression que c'est assez écrit comme Macron parle.
C'est archi préparé.
Oui, c'est assez écrit comme discours. Et en revanche, ce qui est plus significatif, je suis assez d'accord avec Eric, on est dans l'anecdote, mais ce qui est plus significatif, c'est la séquence de la matinée, où ça commence par le président qui dit il faut tenir, et ça sera pas oisif et tranquille dans les mois qui viennent.
Oui.
Et puis ensuite, on annonce la réorganisation de la com, de la com à l'Élysée, et puis ensuite, Édouard Philippe qui détaille le programme, et effectivement, c'est pas oisif et c'est pas tranquille, parce que quand on voit l'agenda législatif, c'est assez monstrueux ce qui attend le gouvernement.
Alors Audrey Goutard, ce que décrit Romain De Salles à l'instant, est-ce que vous trouvez que c'est un genre nouveau ou un sentiment de déjà-vu? On se souvient de Nicolas Sarkozy qui aimait bien aussi mettre en scène des journées entières comme ça de communication politique.
Sur la forme, évidemment, il y a cette petite parenthèse au Conseil des ministres qui est nouvelle. Par ailleurs, c'est vrai que c'est toute une journée, mais c'est drôle, on avait un peu le sentiment que cette journée était orchestrée pour donner une seule et unique réponse, celle des mauvais sondages. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il répondait exactement au sondage qui montrait la baisse de sa popularité et qu'il disait aux Français, bon, ok, vous me donnez de mauvais chiffres, mais regardez, il y a du boulot sur la planche, c'est pas le résultat, ça n'est pas pour tout de suite. On avait l'impression qu'il répondait vraiment directement aux Français par cette journée et la forme qu'elle prenait.
Arnaud Benedetti, justement, ce président est souriant sur les images, mais est-ce que cette présidence a changé de visage?
Je ne sais pas si elle a changé de visage, mais ce qui est clair, c'est qu'il a voulu, dans un contexte politique indéniablement difficile, restaurer deux éléments qui sont très importants dans la mythologie, si je puis dire, macronienne. C'est le temps. Emmanuel Macron a toujours considéré et a toujours plaidé le fait qu'il lui fallait du temps pour que ces réformes impriment dans l'opinion et puissent bien évidemment avoir un certain nombre de résultats. Et puis la ténacité, c'est ce qui ressort de la thématique générale de ce Conseil des ministres. Il faut tenir dans l'adversité. Donc c'est cette image d'homme inflexible qu'il veut quelque part dessiner à travers cette communication.
Éric, mais tous les horloges que vous évoquiez tout à l'heure, elles sont un peu en panne quand même, non? Ou du moins, elles ont du mal à repartir, non?
Le maître des horloges. Les horloges est un peu en panne, non? Les horloges elles-mêmes. Le problème du maître des horloges, c'est que les horloges elles continuent à tourner justement. Donc non, c'est lui qui a un problème de réglage plutôt.
Allez, 20h10 sur France Info. On poursuit sur l'idée. Mais tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
La suspicion de choléra levée ce soir à Perpignan. 147 passagers avaient été confinés cet après-midi dans un avion en provenance d'Algérie. Un enfant présentant les symptômes avait lui été hospitalisé. Tout risque est finalement écarté après prélèvement biologique. Une femme au perchoir, elles sont trois à vouloir devenir la première présidente de l'Assemblée nationale. La députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet, l'isèroise Sandra Motin et l'élue de la Somme Barbara Pompili qui vient d'envoyer sa profession de foi au député. Trois femmes, La République En Marche contre un homme, le président de la majorité présidentielle Richard Ferrand. Le numerus clausus a fait son temps. Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine est favorable à la suppression du concours pour les étudiants de première année. Un projet voulu par le gouvernement. Sur France Info, le professeur Jean Sibilia prône un premier cycle plus progressif et pluridisciplinaire. En Afghanistan, un double attentat fait au moins 20 morts à Kaboul, la capitale. C'est un club de sport d'un quartier chiite qui a été visé, minorité religieuse régulièrement visée par le groupe État islamique. Et puis ce sera sa première demi-finale de Grand Chelem. La jeune joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, 20 ans, se qualifie pour le dernier carré de l'US Open. Elle affrontera l'américaine Madison Keys ou l'espagnole Carla Suarez Navarro qui s'affrontent cette nuit.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors, il y a eu les atermoiements sur le prélèvement de l'impôt à la source pour déboucher sur cette annonce finale d'Édouard Philippe, hier soir aux 20h de TF1. Michel Sapin, l'ancien ministre des Finances et des Comptes Publics, devenu par la suite également ministre de l'Économie, après le départ d'Emmanuel Macron, et s'est étonné ce matin sur Public Sénat de cet angoissant feuilleton sur le prélèvement.
C'est vraiment une mesure de bon sens, toujours compliquée à mettre en œuvre parce que l'impôt est compliqué en France. Elle a été votée très largement par le Parlement précédent. Elle a été revotée de nouveau très largement par le Parlement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Voilà, tant mieux, ça se met en place. C'est pas une histoire de ouf de ce genre. La seule question que je me pose, c'est pourquoi ce pataquès?
Pourquoi ce pataquès selon vous?
Écoutez, en fait, c'est la question que tout le monde se pose vraiment.
Encore aujourd'hui,
ouais. C'est-à-dire que personne n'arrive à comprendre, alors qu'il y a eu tous les tests faits, même avec des bugs, etc. Mais globalement, les tests ont été faits, que c'est quand même une mesure qui se prépare depuis des siècles à Bercy. Ça n'est pas une nouveauté quand même que les gens de Bercy réfléchissent à cette mesure. Donc logiquement, ça devrait bien fonctionner. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est un coup de sang? Est-ce que c'est une angoisse? Mais une angoisse exprimée. supprimer, ça peut paraître un peu étonnant. Donc là, franchement, je serais bien incapable de vous répondre.
Éric Métou, merci de l'avouer. Hein. Éric Métou, ça a vraiment tangué. Joker aussi, ça a tangué, vous pensez?
Ah oui, je pense que ça a tangué, mais ce qui est intéressant, c'est que même pendant l'affaire Benalla, on avait senti quand même qu'il y avait une certaine sérénité chez Macron, en tout cas, qui regardait ça d'un petit peu haut, en disant « tout ça me concerne pas vraiment ». Et là, on a l'impression de traverser une semaine de panique, un effet de panique sur en plus, une mesure qui effectivement peut avoir un... Alors, est-ce qu'il y a une réalité derrière ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on saura malheureusement qu'en janvier, c'est effectivement est-ce que le logiciel va déraper, et c'est déjà arrivé
donc
plusieurs
un
fois.
Et technique.
Oui, c'est, possible, une, c'est une spécialité française quand même, ouais. L'informatique qui marche pas. Ça, c'était le cas dans l'armée. Il y a quelques autres exemples récents qui le montrent. Donc, est-ce que ils avaient des vraies inquiétudes, mais de là à partir en vrille comme ils sont partis pendant une semaine, c'est vrai que c'est inexplicable.
Romain de Salles, vous avez été surpris vous par cette séquence qui démarre dans le JDD, on va pas le rappeler avec le Premier ministre, puis à Helsinki avec cette déclaration spectaculaire du chef de l'État. Hein.
Non, sincèrement, moi...
Vous trouvez ça normal?
Je fais le foire à bras, mais sincèrement, moi, je pense que l'explication est assez claire. Il y a les choses ont totalement changé pour le contexte économique du gouvernement. Ouais. Il y a une énorme crispation sur la croissance. La croissance, objectivement, faiblit très fortement. Macron est quand même dans une situation qui est complètement dingue. Il est dans la situation inverse de Hollande. C'est-à-dire qu'il va regretter le bol de Hollande. Le président qui disait qu'il n'avait pas de bol, sa situation va être enviée par Emmanuel Macron. Si vous regardez le quinquennat de Hollande, tous les ans, il a plus de croissance que la... ça part de niveau abyssal, hein, mais tous les ans, il a plus de croissance que l'année précédente. Pour le quinquennat de Hollande, ça va se passer, c'est les estimations, jusqu'en 2020... Tous les ans, il va avoir moins de croissance et peut-être un peu de croissance à la fin du quinquennat.
Sauf que François Hollande avait mis le doigt sur la courbe du chômage qui ne s'inversait pas.
C'est vrai. Mais néanmoins, il y a une crispation sur la croissance énorme de la part d'Emmanuel Macron. Et cette mesure, la grande inconnue de cette mesure, c'est quel va être l'effet psychologique sur les Français et en particulier sur la conso, qui est quand même le gros ressort de la croissance en France. Ouais. Et ça, personne n'a le truc. Donc, que la main tremble un peu... On peut regretter s'étonner de la forme venant du président jupitérien, mais on peut sincèrement sur les raisons, je les vois assez bien.
Vous les admettez, vous les comprenez. Arnaud Benedetti, la main tremble, dit à l'instant Romain de Salles, mais est-ce qu'elle doit trembler publiquement cette main présidentielle?
Je ne sais pas si elle doit trembler
publiquement.
C'est vrai que le fait
que l'exécutif a fait peur aux Français, finalement.
Il est évident que c'est tout à fait contraire à l'image que veut, encore une fois, véhiculer Emmanuel Macron d'un président de la République qui, lui, n'a pas peur d'engager des réformes et de les mener jusqu'au bout. Il est clair, d'ailleurs, que cette réforme n'est pas la sienne puisque c'est celle de François Hollande. Mais peu importe. En l'occurrence, il est là pour la poursuivre. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le contexte économique. Je crois qu'en effet, le contexte économique a joué un rôle considérable dans les hésitations d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour savoir s'ils allaient mettre en place ou pas ce nouveau système de collecte de l'impôt. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ensuite, en termes de communication, en effet, c'est une communication hyper anxiogène. Parce que vous dites un jour, vous y allez, un autre jour, vous n'y allez pas, avec des Français qui ont quand même aujourd'hui un état d'esprit vis-à-vis des résultats économiques d'Emmanuel Macron qui commence quand même à changer. Je crois qu'en effet, la communication de ce point de vue-là est une communication qui, pour le moins, n'a pas été parfaitement maîtrisée.
Audrey Goutard, je vous ai vu tout à l'heure faire des bonds.
Non, non, je repensais effectivement vous parlez justement de l'état anxiogène. On se souvient quand même, lors du passage à l'euro, tout s'était bien passé. Finalement, techniquement, ça s'est bien passé. Et pourtant, les ménages étaient extrêmement anxieux et ont retenu leurs dépenses. Et effectivement, on a vu un ralentissement des dépenses des ménages. Donc ça, l'Élysée le sait que justement, il faut rassurer les Français. Et malgré tout, ils ont effectivement ce discours anxiogène. C'est totalement incohérent alors que ce sont de bons économistes.
Alors, nous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi cela survient, Éric Métou, à cet instant précis?
C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que les Français n'étaient pas anxiogènes avant qu'on...
Oui, ça passait tranquille.
Les les rendre anxieux. Il y avait des sondages qui allaient à peu près tous dans le même sens, je crois que c'est autour de 60% d'approbation. C'est quand même une simplification administrative. Après, il y avait des catégories socioprofessionnelles à qui ça pouvait poser des problèmes, les indépendants, les chefs d'entreprise qui râlaient. Enfin, globalement, c'était sur des rails, ça roulait. Et pourquoi d'un seul coup, effectivement, la semaine dernière, alors, est-ce que c'est pour rattraper le temps? Je sais pas, pour changer, faire une diversion. J'en ai aucune. Enfin, pour moi, c'est une séquence totalement ratée et peut-être la pire de tous ces derniers mois.
En tous les cas, cette interrogation demeure sans réponse ou si peu. En tous les cas, les échos ont affirmé aujourd'hui que Sylvain Faure, qui est la plume, on le sait, du chef de l'État, un de ses plus proches collaborateurs et amis, serait donc le nouveau patron ou sera ou est le nouveau patron de la com. Il y a même eu conséquence de l'affaire Benalla. Il y a même eu une sorte de rumeurs autour du sort de l'actuel porte-parole Bruno Roger Petit, qui serait, restant au conditionnel, tout ça est battu en brèche au fil des heures, sur le départ. Arnaud Benedetti, il y a une sorte de reprise en main de la façon, dans l'expression présidentielle, dans la communication de l'Élysée.
En tout cas, il y a un souci manifestement de communication. Mais vous savez, c'est un grand classique. Quand il y a un problème dans une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une organisation politique, une organisation économique, une organisation sociale, on a tendance à considérer que c'est la faute à la com. Alors les politiques en général, d'abord disent c'est la faute aux médias, et ensuite c'est la faute à la com. Donc on va réorganiser la com, et on considère que la réorganisation de la com va être finalement la potion magique qui va permettre de remettre sur ses rails un gouvernement et une majorité. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça, mais enfin, en tout cas, c'est une réalité. Aujourd'hui, que la communication de Macron, qui était assez lisible, assez ordonnée ces derniers mois, a depuis maintenant quelques mois, depuis disons avant l'été, commencé à sortir de ses rails et de son couloir.
Romain de Salles, c'est important pour les citoyens d'avoir une bonne communication au niveau au sommet de l'État.
Bah, j'en défère aux spécialistes, mais ce qui est sûr, c'est que objectivement, la com de Macron a été inexplicablement hésitante et, pour reprendre le mot d'Audrey, anxiogène ces derniers jours et donc, enfin, ces derniers mois, et donc on se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête.
Oui, allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Léo Teicher.
Le gouvernement veut tenir le cap, plan pauvreté le 13 septembre, plan hôpital le 18 et réforme institutionnelle prévue pour cet hiver au plus tard. Le Premier ministre Édouard Philippe a repris la main aujourd'hui lors d'un séminaire gouvernemental après un été compliqué entre affaire Benalla, démission de Nicolas Hulot et hésitation sur l'impôt à la source. Un maître nageur de Châteauroux condamné à 18 mois de prison avec sursis pour blessure involontaire. C'est lui qui travaillait il y a 2 ans et demi quand un enfant de 3 ans et demi s'est noyé dans la piscine municipale. Le petit Ilyes est aujourd'hui lourdement handicapé. Un premier accord sur la coquille Saint-Jacques. Quelques jours après des altercations en mer, les pêcheurs français et britanniques se réunissaient à Londres ce soir et c'est donc l'accord de 2017 sur les bateaux de plus de 15 mètres qui est renouvelé. De nouvelles discussions auront lieu dans 48 heures à Paris. Une lueur d'espoir pour le Yémen, c'est ce qu'estime l'envoyé spécial des Nations Unies pour ce pays à la veille de pourparlers de paix. Demain donc à Genève, les premiers depuis plus de 2 ans. La guerre y a déjà fait 10 000 morts et plus de 8 millions de personnes au bord de la famine. Et puis le championnat de France de handball reprend ses droits ce soir avec les nouveaux grands d'Europe. Le finaliste de la Ligue des Champions, Nantes, joue dans 10 minutes à 20h30 à Pontault. Le Paris Saint-Germain joue à 20h45 contre Ivry et le champion d'Europe Montpellier jouera demain contre Aix.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors le pays tout entier retient son souffle qui va occuper le perchoir après le départ de François de Rugy. Ceci dit, il y a une vraie bataille à l'Assemblée nationale et il est question d'un poste promis à Richard Ferrand, fidèle proche d'Emmanuel Macron et patron du groupe La République En Marche. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, sur France Info ce matin, a dénoncé un recasage organisé.
On assiste hier à un banal jeu de chaises musicales où on sort le président de l'Assemblée pour pouvoir donner sa place à celui qui a été un grognard de la Macronie, Richard Ferrand. Et donc, pour l'instant, la réponse n'est franchement pas à la hauteur. Franchement pas. On a le sentiment que ce pouvoir qui devait être celui qui incarne une nouvelle façon de faire de la politique a en réalité retenu le pire de l'ancien monde.
Éric Métou, vous diriez également une sorte de jeu de chaise musicale, Rock Hazard.
Oui, là-dessus, il a parfaitement raison. Il faut quand même se souvenir que c'était Richard Ferrand qui était le candidat de La République En Marche pour la présidence de l'Assemblée et qu'il a été retoqué pour ses problèmes de délicatesse avec le fisc. Et puis par ailleurs, moi, il y a autre chose qui me gêne, c'est que si je me souviens bien, François de Rugy avait dit qu'à mi-mandat, il passerait le siège à une femme. Parce que La République En Marche, elle est très paritaire sur les bancs de l'Assemblée, mais dès qu'on monte un peu dans les étages, ça devient très masculin. Et il me semble pas que Richard Ferrand soit une femme.
Alors justement, Audrey Goutard, Richard Ferrand a trois candidates face à lui, trois députées femmes qui le défient. La présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, également la députée de l'Isère, Sandra Motin, et celle de la Somme, l'écologiste marcheuse Barbara Pompili, qui a confirmé ce soir qu'elle était candidate. Ça serait bien de féminiser, selon vous?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est la logique. C'est aujourd'hui impossible d'imaginer que les femmes soient au pied de l'escalier et ne soient jamais en haut des marches. Donc, évidemment, d'autant plus... Alors là, trois femmes se présentent. Ne pas choisir d'en nommer au moins une serait certainement très mal vu des marcheuses.
Vous pensez que c'est une vraie compétition, Romain de Salles ?
Je sais pas, mais je voudrais juste revenir sur l'histoire de chaises musicales. Oui, c'est sûr que c'est les chaises musicales, c'est évident. On voit bien que le truc est en cascade, etc. Mais enfin, il y a un autre truc, c'est que Emmanuel Macron, il a quand même un énorme problème de RH. C'est que qui est-ce qu'on peut mettre? Alors, il y a Richard Ferrand qui a le poids politique. Il y a certainement Barbara Pompili, Yaël Braun-Pivet, etc. Mais enfin, il y a un gros problème de ressources.
Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces visages de la politique pas assez visibles?
Mais qui est-ce que vous mettriez, vous, Jean-François Akili, si vous deviez choisir quelqu'un pour le perchoir? Objectivement, les noms, c'est pas légion. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'aurait pas parlé sur François de Rugy non plus quand il.
Bah oui, il y a
tout. Oui.
C'était pas un poids lourd. François de Rugy n'était pas un poids lourd au moment où il a installé sur le perchoir.
La grande majorité des Français ne le connaissent pas.
Ça, c'est une excuse qu'ils vont probablement brandir. Ça se construit une personnalité.
Mais quand Raymond Forny, jadis personnage de qualité, arrive au perchoir, les Français ne le connaissaient pas ou
oui,
peu.
Mais ils étaient beaucoup plus expérimentés politiquement. Tous ces élus du Parti Socialiste auxquels vous faites référence ou du RPR, ils avaient une longue carrière de grognards de la politique pour un certain nombre d'entre eux. Mais moi, ce qui m'intéresse avec l'histoire de Ferrand, c'est que finalement, Macron, il est assez mitterrandien dans sa façon d'être. Il protège quand même fortement ses amis. Et Ferrand, c'est vrai que c'est un des tout premiers, c'est peut-être le premier parlementaire à l'avoir rallié avec Gérard Collomb, sénateur et maire de Lyon. Donc il a une espèce de fidélité, de loyauté. Regardez la façon dont il a traité même l'affaire Benalla. Il a jamais véritablement lâché Benalla sur le plan amical. Il a reconnu les qualités même de Benalla lorsqu'il était à la maison de l'Amérique latine. Donc il y a une espèce de fibre un peu mitterrandienne qui fait très vieux monde, en effet, en l'occurrence, chez Macron. Mais c'est vrai que ça pose un problème. Parce que vous pouvez pas vous faire élire sur l'instauration d'un nouveau monde politique, de nouvelles pratiques politiques, en allant chercher quand même un élu qui est lui-même quand même représentant d'un ancien monde. C'est vrai qu'en l'occurrence, peut-être que la candidature d'une femme serait un coup de communication politique.
Alors justement, l'affaire sera tranchée par un vote dans les rangs de La République En Marche, c'est lundi prochain, je crois, aux journées parlementaires. Puis il y aura un vote dans l'hémicycle ensuite avec un seul candidat pour l'AREM, Audrey Goutard. Est-ce que ce parti est en train de devenir une vraie formation politique? Parce qu'on a souvent dit qu'au fond, c'était une sorte d'immense coquille vide.
Non, mais là, il se comporte comme une formation politique qui a...
Vous pensez qu'il y aura un vrai vote?
Vous voulez dire si ce serait bidonné ou pas?
Ouvert.
Un vrai vote. Je pense qu'il y aura des consignes, mais effectivement, et notamment sur la féminisation nécessaire d'une partie. Je pense qu'il va y avoir des lobbyings qui vont se développer. Mais après, ça sera un vrai vote. Alors ça, je peux pas vous dire de quelle manière ça va voter, mais ça vote comme un parti, là.
Sceptique, Arnaud Benedetti, là-dessus.
Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait un vote à bulletin secret. S'il y a un vote à bulletin secret, on peut considérer qu'il y a un vrai vote. Si le vote se fait à main levée, en effet, on pourra quand même largement douter. Mais à partir du moment où il y a une concurrence et il y a une pluralité de candidatures, je ne vois pas comment on peut procéder à une autre méthode que celle du bulletin secret.
Éric Métou.
Les secrets sortent vite des urnes dans ces cas-là. Bon. Donc, je pense qu'ils vont voter comme un seul homme et qu'il y aura peut-être 2, 3, 4 frondeurs qu'on identifiera après.
Allez, dans la deuxième partie des Informés de France Info, nous évoquerons les réformes, le numerus clausus et les coquilles Saint-Jacques. Ce sera après la météo et le rappel de l'info.
Fiscalité, immobilier, épargne, retraite, succession. Difficile de s'y retrouver.
Avec l'UFF, gagnez en sérénité. En septembre, ce sont les journées de votre patrimoine. Bénéficiez d'une consultation offerte avec un de nos conseillers. Inscrivez-vous vite sur réveillezvotrepatrimoine.fr.
La prévention permet d'éviter des accidents sur la route et à la maison et de préserver sa santé. La prévention, c'est adopter de bonnes attitudes et les transmettre dès le plus jeune âge. La prévention, c'est la mission d'Attitude Prévention, l'association des assureurs français.
Attitude Prévention. Les assureurs se mobilisent.
Nos conseils sur attitudeprévention.fr.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2. Ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos pilotes sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions, avec vous Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Temps lourd et orageux ce soir dans le sud-ouest, il faudra être particulièrement vigilant des Pyrénées-Atlantiques aux Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne au sud du Massif central, où l'on attend des orages localement forts. Demain matin, nous allons retrouver un temps instable et orageux de l'Aquitaine au Massif central, gagnant la Bourgogne et la Franche-Comté. Une bande pluvieuse s'étendra de la région Poitou-Charentes au Pays de Loire, du centre à l'Île-de-France et du Nord-Pas-de-Calais à la région Champagne-Ardenne. Le ciel sera variable avec quelques ondées du Languedoc-Roussillon à la région PACA. Prévoyez de belles éclairci dans le nord-est, un seul la Bretagne et la Normandie profiteront d'un franc soleil. L'après-midi, prévoyez un temps orageux de l'Aquitaine au Massif central, de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne et de la Franche-Comté à la région Grand Est. Le soleil, quant à lui, va gagner les pays de Loire, le centre, la région parisienne et le nord. Les températures maximales baisseront sensiblement, comptées entre 19 et 24 degrés et jusqu'à 28 degrés dans le sud.
France Info.
Depoix, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. L'exécutif au grand complet a voulu montrer l'image d'une équipe au travail ce mercredi. Pour la première fois, le début du Conseil des ministres a même été filmé et enregistré par les micros et caméras afin d'entendre le chef de l'État souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux ministres, Roxana Maracineanu au sport et François de Rugy à l'écologie. Il a appelé les membres du gouvernement à tenir face aux nombreux défis qui les attendaient. Parmi ces défis, il y aura le plan pauvreté et le plan hôpital qu'Emmanuel Macron présentera lui-même les 13 et 18 septembre prochains. Une communication pour faire oublier les turbulences de l'été, la démission à la rentrée de Nicolas Hulot ou encore les altermoiements sur les impôts, un prélèvement de l'impôt à la source qui sera bien mis en œuvre au 1er janvier. C'est ce que le Premier ministre a confirmé hier et ça n'a pas rempli de joie le patron des patrons marseillais. Pour Johan Bensinvenga, les PME ne sont pas prêtes.
Moi, je suis dans le BTP avec des ouvriers qui vont avoir leur net à payer tous les mois, qui vont baisser de manière significative puisqu'on va leur prélever l'impôt à la source. Et donc, ils sont affolés. Tous les mois, ils vont avoir moins d'argent. Et donc, ça va générer des problématiques sociales assez importantes. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis après, il faut changer les logiciels de comptabilité, les logiciels de paye pour sécuriser les informations parce qu'on va avoir des informations très personnelles de nos collaborateurs et il ne faut pas que ces informations fuitent. Et nous, dans nos boîtes, on n'est pas adaptés pour sécuriser ces informations.
Le patron des patrons à Marseille, Johan Bensinvenga. François de Rugy parti, le perchoir aiguise les appétits. Maintenant, celui de Barbara Pompili, la députée de la Somme, vient d'annoncer sa candidature pour présider l'Assemblée. Ils sont maintenant 4 marcheurs à briguer le poste. Yaël Braun-Pivet, Sandra Motin et puis le favori, l'actuel patron du groupe, Richard Ferrand. Le typhon qui a frappé le Japon le plus violent depuis 25 ans a fait 11 morts et plusieurs centaines de blessés, selon un dernier bilan. Plus de 2 millions de foyers ont été privés d'électricité, un grand nombre de vols annulés, directement touchés par la tempête. L'aéroport d'Osaka pourrait rester fermé pendant plus d'une semaine. Une suspicion de choléra à bord d'un vol en provenance d'Algérie a provoqué l'immobilisation d'un avion pendant plus d'une heure à Perpignan cet après-midi. L'enfant susceptible d'être porteur du virus a été évacué vers l'hôpital. La suspicion a finalement été levée. Les 147 passagers membres de l'équipage ont pu ensuite quitter l'appareil. Suite et fin des quarts de finale à l'US Open de tennis à New York. Première qualifiée de la journée, la jeune japonaise Osaka, 20 ans. Elle se qualifie pour la première demi-finale de son histoire. La suite des informés à 20h33 sur France Info. Jean-François Akili.
20h, 21h, les informés, Jean-François Akili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, Romain Dessalle, fondateur de la newsletter d'actualité TTSO, Time to Sign Off, je prononce bien, Éric Métou, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique, professeur associé à la Sorbonne, auteur du coup de com' permanent aux éditions du CERF, dont je recommande au passage la lecture. Alors, place aux réformes. Emmanuel Macron va présenter lui-même le plan pauvreté, et ce sera jeudi de la semaine prochaine, puis le plan hôpital. 5 jours plus tard, il est donc de retour sur le terrain. Les grands chantiers à venir évoqués par Édouard Philippe au sortir du séminaire gouvernemental.
Ce sont 6 grands chantiers qui vont nous permettre une rénovation méthodique de notre modèle social. Ces 6 chantiers concernent d'abord la lutte contre la pauvreté. Un plan et une stratégie complète de lutte contre la pauvreté seront présentés par le président de la République la semaine prochaine, le 13 septembre, et rentreront en application à compter du 1er janvier 2019.
Voilà le séminaire gouvernemental, c'est pas facile à dire. Audrey Goutard, c'est la jambe gauche du gouvernement qui est en marche ?
Ah bah clairement là, oui, puisque on rentre dans le dur de tous les grands projets sociaux et où ils sont attendus au tournant, puisque après avoir été accusés de faire la part belle à toutes les velléités de droite, eh bien là, effectivement, là, on attaque la pauvreté, la réforme du monde médical, les univers, les déserts médicaux, etc.
Éric Métou, vous diriez-vous qu'au fond, ce gouvernement repart de plus belle, on parle de réformes, 6 chantiers à venir. Est-ce que tout cela est franchement audible au sortir de cette séquence qui a été assez turbulente ?
Il n'a pas le choix. Ni Macron, ni le gouvernement Philippe n'ont le choix. Justement, pour faire oublier un peu cette séquence turbulente. C'est-à-dire que là, voilà, c'est la rentrée, on repart, on se remet au travail et on part au même rythme, voire à un rythme encore plus soutenu que l'année dernière. Je pense qu'on va entendre des plaintes de députés dans les semaines
ça
qui
va revenir,
viennent.
Ouais, ça va revenir.
Ils vont avoir du boulot. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur la jambe gauche, parce que le plan pauvreté, sur ce qu'on en sait, c'est un peu de pauvreté, mais les associations sont déjà montées au front contre quelques mesures. La loi Pacte, c'est quand même encore à destination des entreprises, même s'il y a quelques mesures sociales. J'ai pas tellement l'impression qu'il ait changé de partition entre le mois de juin et le mois de septembre.
Oui, parce que Pacte, cela signifie plan d'action pour la croissance jolie et la transformation des entreprises. Romain de Salle. Apparemment, cette loi est une sorte de loi Macron qui ne dit pas son nom, comme on a connu jadis, et qui repousse d'ailleurs la réforme constitutionnelle.
Oui. Enfin, la réforme constitutionnelle, il est quand même clairement dit qu'elle serait étudiée avant l'hiver. Enfin, pardon, avant la fin de l'année. Donc, le gouvernement, Édouard Philippe, montre bien que on ne renonce à rien. La loi Pacte, on sait pas très bien ce que... Enfin, la loi Pacte, c'est près de 1000 pages. C'est 73 articles, 2000 amendements déposés, et ça va des levées de fonds en bitcoin au seuil social.
Vous diriez quoi, que c'est une loi fourre-tout?
L'idée, c'est quand même de
trouver un point de croissance, quoi, grosso modo.
Alors, il y a effectivement... Bercy a sorti ce chiffre auquel s'accroche le maire, qui est que la loi Pacte... Alors le chiffre, on est quand même dans l'éther. La loi Pacte livrerait un point de croissance en plus, un point de PIB en plus sur le long terme. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais moi, j'en ai aucune idée. Je vois ce que c'est qu'un point de PIB. Mais enfin, un point de PIB de en plus sur le long terme, c'est pas d'engagement. Donc, ce qu'on sait de la loi Pacte, c'est que c'est un énorme paquet, très hétéroclite, et effectivement plutôt sur la politique de l'offre que sur la politique sociale, même si il y a en particulier sur l'intéressement,
Vous avez le relèvement des seuils des entreprises également.
Alors le relèvement des seuils pour la représentation des salariés.
Oui.
Pour la représentation. Exactement. Il y a deux ou trois mesures qui sont effectivement assez sociales dans une loi qui par ailleurs est très hétéroclite et qui est plutôt d'inspiration politique de l'offre.
Arnaud Benedetti, trop de réformes tue la réforme ou au contraire? C'est ce que disait Éric Metou, ce gouvernement n'a pas le choix finalement, il faut qu'il avance, marche avant toute.
C'est son fond de marque la réforme. Il veut montrer que lui réforme alors que ses prédécesseurs étaient incapables de réformer. Alors je sais pas si c'est vrai. De toute façon, on a inventé un storytelling en disant que la France n'avait pas bougé depuis 40 ans. Donc maintenant, on veut montrer qu'on bouge. La réalité, c'est que quand même la France a subi des chocs de transformation quand même depuis 40 ans assez considérables. Mais bon, peu importe. Le récit macronien, il est basé là-dessus, sur une immobilité qui a précédé l'arrivée d'Emmanuel Macron. En même temps, moi ce que je crois c'est que le problème, c'est que la jambe gauche, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il l'a perdue depuis le début et que ça va être extrêmement difficile de la récupérer. Donc les annonces qu'il fait aujourd'hui sont des annonces qui me paraissent en effet relever beaucoup de la rhétorique, mais pour récupérer l'électorat de gauche, pour récupérer la sociologie de gauche, les signaux qui ont été lancés quand même depuis un an sont des signaux qui ne parlent pas forcément à cette culture politique.
Vous voulez dire que c'est une politique plutôt libérale qui est sur la table aujourd'hui?
C'est plutôt une politique, oui, en tout cas, qui est considérée comme libérale. Oui. Les vrais libéraux vous diront que ce n'est pas une politique libérale, mais en tout cas, c'est plutôt une politique qui donne une tonalité, une couleur libérale. Et aujourd'hui, quand même, il y a un signe qui est très fort. Quel est le premier texte que l'on va discuter à l'Assemblée nationale? C'est la loi Pacte. La réforme constitutionnelle, on voit bien qu'elle est quand même rangée au calende grec.
Audrey Goutard, le Premier ministre a dit rénover de façon méthodique notre modèle social. Vous sentez cette inspiration-là dans ce qui est avancé aujourd'hui?
En tout cas, c'est vraiment le cœur de l'identité macronienne. C'est-à-dire que c'est effectivement des entrepreneurs plus libres, des salariés qui sont transformés en actionnaires. On est vraiment dans l'ADN de toute la campagne de Macron avec en marche vers les réformes, en marche vers effectivement une croissance et des entreprises plus libres.
Allez.
Donc voilà.
Allez, nous allons zoomer dans un instant sur une réforme importante, hein, celle de la santé, notamment du numerus clausus. 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Léo Teicher.
Fausse alerte à Perpignan, il n'y avait pas de choléra dans l'avion. 147 passagers en provenance d'Algérie avaient pourtant été confinés cet après-midi après suspicion d'un cas. Un enfant qui a été hospitalisé, tout risque, est finalement écarté après analyse médicale. Des francs-maçons à l'Élysée, les grands maîtres reçus pour un dîner ce soir avec Emmanuel Macron, premier du genre depuis son élection. Au menu donc des discussions Europe, développement durable, laïcité et bioéthique. Des enquêteurs sur la trace de Redouane Faïd, des perquisitions menées aujourd'hui dans l'Oise, chez des proches du braqueur qui s'est évadé de prison il y a 2 mois. Aucune interpellation n'a eu lieu. Des nouvelles tensions entre Londres et Moscou. La première ministre Theresa May accuse le renseignement militaire russe d'être responsable de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. Le Royaume-Uni demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie dénonce un spectacle de propagande. Ne jamais se faire justice soi-même. Kylian Mbappé l'apprend à ses dépens. L'attaquant du Paris Saint-Germain sera suspendu 3 matchs par la Ligue de football professionnelle. Il avait bousculé un joueur de Nîmes le week-end dernier après un vilain tacle et déclaré dans la presse que si c'était à refaire, il le referait avant de finalement s'excuser.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est donc une institution vieille de près d'un demi-siècle pour les médecins. Le gouvernement veut en finir avec ce numerus clausus, règle qui fixe dans le marbre depuis toujours finalement le nombre de médecins formés, ce concours en fin de première année de médecine, sorte de couperet finalement tel qu'il existe actuellement. Révélation sur France Info ce matin, un véritable pavé dans la mare. L'annonce officielle devrait être faite par le chef de l'État le 18 septembre, pas assez de médecins et trop de déserts médicaux dans notre pays. Nous posons le débat avec ces deux témoignages recueillis par nos amis de France 3.
J'ai une rhumatologue que j'avais depuis un moment qui part à la retraite dans quelques mois. Elle me disait qu'elle s'inquiétait parce qu'elle n'a pas pu vendre son cabinet. Donc c'est quand même dommage, oui.
Bah, les délais, les trajets, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de médecins.
Romain de Salles, ça fait combien de temps que nous attendons parler de cette histoire de pas assez de médecins et de cette France, au fond, avec des trous hein, dans la couverture médicale?
Bah, on l'entend. Moi, j'en entends parler depuis toujours.
Je découvre,
comme tout le monde, cette histoire du numerus clausus. Mais enfin, effectivement, il y avait quelque chose qui marchait pas dans cette affaire. Non seulement les déserts médicaux, mais l'incroyable sélectivité et les critères de sélection de la première année de médecine. La première année de médecine, enfin, c'est France Info qui a publié les chiffres oui. Ce matin. C'est quoi?
Les chiffres sur le site franceinfo.fr, seulement 8200 candidats sur les près de 60 000
15%
reçus en médecine l'an dernier. Oui, Audrey Goutard.
Oui, mais le problème, c'est que les médecins qu'on a aujourd'hui, ce sont les médecins qui ont fait leurs études dans les années 90-2000. Et à cette époque-là, on était encore à 3500 étudiants formés. C'est-à-dire que le numerus clausus, il a toujours évolué en fonction de ce qu'on supposait avoir, de nos besoins supposés pour dans 10 ans, puisque les études durent 10 ans. Donc, on a fait, dans les années 90, un très mauvais calcul en se disant, on n'aura pas besoin de plus de 3500 médecins. Et effectivement, on se retrouve avec des déserts médicaux et pas seulement. Dans les hôpitaux, l'obligation d'embaucher des médecins étrangers qui effectivement font un travail que nos étudiants n'ont pas été retenus.
Eric Metou, du coup, il faut déverrouiller le système, c'est la bonne idée?
Ouais, moi, je connais assez peu le sujet parce que j'ai arrêté mes études de médecine à la sortie de la maternelle, mais quand on lit ce qui s'écrit sur le numerus clausus, tout le monde est contre. Tout le monde est contre et le numerus clausus et le concours de sortie de première année. Il n'y a pas que le numerus clausus qui était une espèce de visiblement d'examen de bachotage où pendant une année vous apprenez pas à devenir médecin, vous apprenez à apprendre en fait et à faire des fiches, etc. Après, est-ce que ça va résoudre le problème des déserts médicaux? J'ai pas l'impression que la solution elle soit dans le fait de faire plus de médecins, parce que le problème, c'est quand on a plus de médecins, ils continuent à ne pas aller dans les déserts médicaux et à s'installer à Paris ou en région parisienne. Donc, de toute façon, c'est une mesure parmi d'autres. Elle paraît indispensable. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde est contre. Donc, je me dis que quand tout le monde est contre et qu'il y a une espèce d'unanimité comme ça, de gens qui d'habitude se parlent pas, c'est qu'il doit y avoir un peu de raison là-dedans.
Alors, pas sûr que cela règle le problème des déserts médicaux, disait à l'instant Eric Metou. Arnaud Benedetti, si mon souvenir est bon, une précédente ministre de la Santé a essayé de, au fond, obliger les médecins à s'installer, quitter les villes, finalement. On a l'impression que ça ne marche jamais.
Oui, mais
ça ne fonctionne jamais.
Ça ne pose pas seulement la question des déserts médicaux.
Du maillage,
je suis pas sûr d'ailleurs que ça réponde totalement, je suis assez d'accord avec vous, à la question des déserts médicaux. Ça peut y répondre. Mais c'est aussi la question de l'orientation des étudiants. Vous avez à peu près 60 000 étudiants qui sont en première année de médecine. Vous en avez, vous l'avez dit, 8 000 à peu près qui passent en seconde année. Puis vous en avez à peu près 13 000 parce que vous avez ceux qui vont en pharmacie, ceux qui vont en maïeutique, ceux qui vont en dentaire. À peu près, ça fait 13 000 étudiants qui sont orientés dans un cycle de santé. Mais vous en avez à peu près ensuite 40 000, enfin presque 50 000 qui restent sur le carreau après deux années de médecine. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et en plus, le contenu pédagogique, on le sait très bien aujourd'hui, est totalement inadapté. C'est pas parce qu'on est un bon bachoteur qu'on fera plus tard un bon médecin. De ce point de vue-là, je trouve qu'Emmanuel Macron est assez cohérent. Il l'a annoncé durant la campagne. Maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa proposition.
Alors, une déferlante est difficilement envisageable. Les universités ne peuvent pas forcément pousser les murs, disent les uns et les autres. Maxence Piton est président de l'intersyndicale nationale des internes de médecine générale.
Avant de savoir combien d'étudiants on va former, il faut savoir comment on les accueille. Et donc la vraie réflexion qu'il faut avoir, c'est sur comment on fait pour augmenter les capacités d'accueil des universités pour que les étudiants soient formés dans de bonnes conditions.
Audrey Goutard, c'est une question fondamentale.
Oui,
il faut pousser les murs.
Mais c'est toujours la même chose. Il a raison, Monsieur Piton. C'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté.
Le
docteur Piton. Je ne sais pas s'il est docteur, il est étudiant encore. On peut pas d'un côté remplir les amphis et d'un autre côté ne pas être capable de gérer correctement les stages, par exemple.
Oui.
À partir de, je sais plus au bout de combien d'années, les étudiants font des stages. Si déjà, j'entendais sur votre antenne une étudiante qui disait déjà on est 15 pour voir un malade et essayer de comprendre ce qui se passe et avec voilà, on n'arrive pas à gérer ça, on est trop nombreux en stage. Si vous avez une déferlante de stagiaires, ça marche pas. Donc effectivement, il va falloir pousser les murs, il faut organiser, c'est quelque chose qui se réfléchit. Est-ce qu'il faut dès l'année prochaine supprimer le numerus clausus? Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de temps, mettre de l'argent parce que finalement c'est un problème de gros sous comme d'habitude. Et donc effectivement, est-ce qu'il faut pas réfléchir et planifier cette évolution.
En tout cas, cette appellation romaine, hein, numerus clausus, parle à tous les Gaulois que nous sommes, parce que nous sommes tous confrontés à ces problèmes de fréquentation de médecins qui n'existent pas, notamment dans le rural. Je me tourne vers vous, Arnaud Benedetti, vous qui enseignez à la Sorbonne. Un mot sur Parcoursup, parce qu'au fond, le couperet tombe ce soir. Écoutez, c'est l'heure de l'évaluation des choses. Il ne sera plus possible de garder des vœux en attente à compter de minuit, c'est la règle. Hein. Mmh. Et là encore, il y a un chiffre, hein, 60 000 futurs étudiants sont toujours en attente d'affectation via la nouvelle plateforme. Chiffre fourni par la LAFAGE, qui est la Fédération des Associations Générales Étudiantes. Franchement, ce système... vous paraît efficace?
Je ne sais pas s'il me paraît efficace. Il me paraît quand même, en tout cas, plus juste que le système précédent qui était APB. En l'occurrence, aujourd'hui, vous en avez 60 000 qui sont en attente, 100 000 qui sont sortis hors du radar. Le problème, c'est qu'on est face à un système technique qui n'accompagne pas automatiquement, humainement, les étudiants. Et la vérité, elle est là. C'est qu'on a fait confiance, encore une fois, pleinement à un système technique. Et on retrouve un peu, d'ailleurs, la problématique qui est celle du prélèvement à la source et dont on se rend compte qu'il fonctionne de manière modérée. Vous savez, quand la commission d'accès à l'enseignement supérieur, je veux dire, appelle un étudiant avec un numéro masqué et que l'étudiant lui dit on va vous rappeler et ouais. Que l'étudiant essaye de le rappeler et que il ne peut pas la rappeler parce qu'il tombe sur un numéro, je veux dire, où personne ne répond, bah, il y a un vrai problème en effet d'accompagnement humain d'un dispositif.
Éric Métou, vous diriez-vous que APB c'est admission post-bac et Parcoursup au fond même combat ou quand même il y a une évolution des choses?
Non, je pense que le principe de Parcoursup dans sa philosophie est plus intéressant. J'ai peur que les étudiants de cette année, et c'est malheureux pour eux, et je comprends que de pas avoir d'affectation en septembre, ça soit très très dur à gérer. Ils aient essuyé les plâtres. C'est-à-dire ils vont a priori tirer les enseignements de ce qui s'est passé cette année, faire mieux l'an prochain, notamment forcer les bacheliers à choisir plus vite. J'imagine réduire le nombre de choix, etc. Mais c'est vrai que le système est a priori plus juste. Après, effectivement, on parlait tout à l'heure des ratés informatiques de la France. APB en était un majeur. Celui-là est un petit peu moins majeur, mais c'est aussi un raté informatique. Et le raté informatique là, effectivement, c'est de faire confiance strictement aux algorithmes dans des situations où il faut des... En plus, c'est des lycéens, c'est une matière sensible.
Oui, c'est notre avenir. 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
70 mesures pour libérer la croissance et renforcer les entreprises. Mais pour Oxfam, qui lutte contre les injustices et la pauvreté, la loi Pacte reprend les recettes économiques du 19e siècle. Sur France Info, Manon Aubry de l'ONG s'inquiète du danger de flexibiliser les salaires qui créera un manque à gagner important dans les caisses de l'État. Trois femmes candidates pour devenir la première présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire, la députée des Yvelines Yael Braun-Pivet, l'Isère-Oise Sandra Motin et l'élu de la Somme Barbara Pompili. Trois femmes, La République En Marche, qui font face à un favori, un homme, le président de la majorité présidentielle, Richard Ferrand. Les catastrophes naturelles se succèdent au Japon. Un violent tremblement de terre enregistré ce soir sur l'île d'Hokkaido, au nord du pays. Séisme de magnitude 6,6, pas d'alerte au tsunami. Le Japon déjà balayé jusqu'à aujourd'hui par un typhon qui a fait 11 morts et des centaines de blessés dans le centre du pays, à Osaka. Le Canada parle de discussions constructives ce soir avec les États-Unis. Donald Trump évoque, lui, des discussions intenses. Après 4 jours de pause, les négociations commerciales ont repris entre les deux pays à propos de leur accord de libre-échange avec le Mexique. Et puis c'était un geste de mise à nu. Déborah de Roberti s'explique sa performance dénudée de samedi dernier près de la grotte de Lourdes. Elle dit avoir voulu incarner la Vierge dans un geste politique contre l'exploitation économique du corps des femmes. L'artiste franco-luxembourgeoise sera jugée en mai prochain pour exhibition sexuelle.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, il y a quelques sourires sur ce plateau. Alors, pauvres coquilles Saint-Jacques, hein, elles sont l'enjeu d'une bataille navale entre des marins pêcheurs normands et de leurs homologues de l'autre côté de la Seine, britanniques, pour une zone de pêche dans baie de Seine. Les accrochages ont été d'ailleurs assez violents et spectaculaires, hein, au large des côtes normandes. Une réunion de conciliation était en cours ce soir à Londres. On attend les résultats. Il faut faire en sorte que ça ne se termine pas en bataille de Trafalgar. Voici le face-à-face des pêcheurs français et anglais recueillis par nos confrères de France 3 Normandie.
Nous, la coquille ouvre le 1er octobre. Eux, ils sont ouverts toute l'année. Ils travaillent ailleurs toute l'année. Pourquoi qu'ils viennent un mois et demi avant dans nos zones? Ils pêchent la quantité de 300 bateaux à 8 bateaux. C'est pas un pillage, c'est un massacre.
On veut retourner là-bas parce que c'est plein de coquilles Saint-Jacques. Mais pas s'ils nous tombent dessus à nouveau. Ils sont malins, ça fait des années que ça dure. Ils ont détruit un chalutier, pourtant c'était un gros de la taille du bateau là-bas.
Assez incroyable cette histoire. Alors je précise, hein, les Français n'ont pas le droit de pêcher la Saint-Jacques pour préserver un peu l'espèce, hein, du 1er octobre au 15 mai. Et les Anglais, ben, ils ont pas de règles. Romain de Salles, c'est encore
du 1er octobre.
Ouais, qu'est-ce que j'ai dit?
Du 1er octobre au 15 mai. C'est l'été en fait. C'est l'été. À la période de reproduction.
C'est comme les oursins, il faut faire attention. Romain de Salles, encore un souci au niveau européen.
Bah ouais, mais. Jusqu'à présent, ça se passait pas si mal. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, ça va recommencer à bien se passer. Parce que il y avait effectivement pas les mêmes obligations. Il y avait pas d'obligations en Angleterre. Il y en avait pour la France. Et on coordonnait les dates de pêche. Tout ça, c'était exclu pour les petits bateaux. Donc, il y avait les petits bateaux qui venaient toujours un petit peu pêcher en dehors des zones de pêche, mais des dates de pêche. Mais cette année, en 2017, il n'y a pas eu d'accord. Et ce que montre cette affaire, c'est un cas de Brexit, un cas concret de Brexit.
Pour vous, c'est un cas de Brexit.
Mais à quel point il est impossible de détricoter ce truc. Je veux dire, la pêche française pour un port comme l'Orient, c'est 40% du tonnage pêché qui est pêché dans les eaux anglaises. Les Anglais, après le Brexit, voudraient interdire leur eau territoriale aux Français. Mais s'ils font ça, ils ne parviendront plus à exporter. Personne n'acceptera d'acheter leur poisson. Or, ils exportent trois quarts de leur poisson. Je veux dire, l'interdépendance de ce système est absolument hallucinante. Et ce que montre ce truc, qui est pas loin d'être tragique, hein, parce que les images sont quand même ultra violentes.
C'est très dur. Oui.
Ce truc, c'est la complexité hallucinante du Brexit.
Audrey Goutard, Stéphane Travert, notre ministre de l'Agriculture, a dit les pêcheurs anglais sont plutôt des Brexiteurs et il faut reconnaître que les tensions se ravivent à l'approche du calendrier de sortie du Royaume-Uni. Vous y voyez un lien vous-même?
Mais oui, parce que ces accords très locaux qui avaient été décidés, etc., cette année, s'ils n'ont pas été reconduits, c'est parce que les Français étaient furieux de voir que les Anglais ont triché en venant avec des bateaux plus petits. On va pas refaire l'histoire, mais les Anglais, tout à coup, ont cru autorisés à changer la donne. Et donc, on peut se dire soit qu'effectivement, c'est le fruit du hasard. Cette année, ils ont décidé de changer. Ou alors, c'est une ambiance, si vous voulez, une ambiance psychologique qui fait qu'en Angleterre, eh ben, on casse les accords. On ne fonctionne plus avec le voisin. En tout cas d'un point de vue économique. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas directement lié au Brexit, mais c'est lié à une ambiance post-Brexit.
Éric Métou, vous qui êtes un spécialiste, hein, apparemment, de la pêche, vous y voyez un signe de quelque chose de l'ordre du divorce avec nos amis de la perfide Albion?
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les pêcheurs britanniques ont été parmi le gros des troupes des Brexiteurs,
oui.
Et qu'ils vont le payer. C'est-à-dire que, un peu d'ailleurs comme nos agriculteurs qui râlent toute la journée contre Bruxelles, alors qu'ils sont protégés par l'Europe depuis des années, des dizaines d'années. Là, quand ils vont se retrouver, s'il n'y a pas d'accord, si c'est un Brexit dur, et c'est une possibilité demain, eh ben, ils vont se retrouver sans règles. Et effectivement, à chaque fois qu'ils iront sur les eaux communautaires, comme c'est le cas aujourd'hui, eh ben ils n'auront plus le droit d'y aller, ils pourront plus pêcher, ils auront des pêcheurs français qui viendront s'opposer à leur arrivée, et ça finira comme ça. Alors après, c'est tellement indétricotable qu'il y aura des accords. On le sait d'ailleurs, il y en a eu un.
Oui, c'est obligatoire, temporaire. Sinon c'est fini.
Il faudra un accord. Mais je regardais un sondage sur le Brexit cet après-midi en Grande-Bretagne. Alors c'est facile parce que c'est des sondages sans vote au bout. Donc maintenant, il y a quasiment près de 60% des Anglais qui regrettent d'être sortis de l'Europe. Et ça va être de pire en pire. Je pense qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'ils vont en manger un moment.
De la symbolique de la coquille Saint-Jacques, Arnaud Benedetti, vous diriez vous également que quelque part il y a eu un vote d'humeur britannique et aujourd'hui nous sommes dans une forme de cauchemar en fait.
Alors est-ce qu'il y a eu un vote d'humeur britannique? Certainement. C'est, de toute façon, il y a toujours une forme d'humeur dans l'expression d'un vote, surtout sur un référendum. On sait très bien qu'un référendum fait jouer des ressorts psychologiques qui ne relèvent pas automatiquement du rationnel, mais tout vote d'ailleurs, il y a une forme d'irrationnel, hein, quel qu'il soit. Mais je suis assez d'accord, l'atmosphère post-Brexit, je veux dire, crée une tension supplémentaire pour la gestion de ce problème.
Et puis basé sur des gros mensonges,
Eric Metteau,
le Brexit, ça a quand même été une campagne où il s'est dit avant l'élection de Trump de gros mensonges. Et parmi ces gros mensonges, il y a le rapport de la pêche britannique avec l'Europe.
Allez, vous gardez la main, Eric Metteau. Quelle est la une de l'Express demain?
Stanislas Dehaene, le monsieur gros cerveau du ministère de l'Éducation nationale, qui nous parle de l'usage des neurones dans les chartes blondes qui vont à l'école depuis
Allez,
deux jours.
Merci à vous, Eric Metteau. Merci, Audrey Goutard. Merci. Romain Dessalle. Et merci, Arnaud Benedetti. Pour ma part, j'aurai plaisir à vous retrouver demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés sur France Info.